aujourd'hui une masterclass particulière. Particulière parce que ça ne sera pas un acheteur ou un spécialiste du métier achat qui va venir vous parler et qui va échanger avec moi. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Marc Reynaud. Jean-Marc Reynaud, c'est un grand expert des métiers de la vente qu'il a pratiqué sur le terrain. Hein, et comme on dit, il a démarré vraiment sur le terrain de la vente. Il s'est construit lui-même son dispositif, sa méthode. C'est très intéressant parce qu'il va pas vous parler comme dans les livres, mais vraiment de la vraie vie de la vente et du coup de la vraie vie de l'acheteur, puisqu'il les côtoie encore aujourd'hui. Et on arrive ensemble à une conclusion terrible. Les acheteurs et les vendeurs ne se comprennent pas et pour autant, ils doivent tellement travailler ensemble. Donc dans cette masterclass, on n'a rien laissé de côté. On va reparler ensemble de son parcours, bien évidemment, de sa connaissance du métier de l'acheteur et de ce qu'il appelle, lui, le cycle d'achat qu'il passe ses journées à enseigner aux vendeurs. C'est excessivement intéressant, avec une petite pincée de digital, puisque du coup, on évoquera bien évidemment le sujet des CRM, des outils de relations et de gestion de contact pour notamment les vendeurs. Voilà, une bonne masterclass. On n'oublie pas, en fin de masterclass, le pouce si vous avez aimé. Et puis, on s'abonne à la chaîne pour pouvoir continuer à recevoir les prochaines notifications. Merci à Jean-Marc pour son temps. Vive les acheteurs et vive les vendeurs.
Ah, qui je suis? C'est une bonne question. Je suis un mouton à cinq pattes. Non, en fait, pour être court, donc moi, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine de la relation client, à travers donc mon expérience principalement chez des éditeurs de CRM, à la fois français et étrangers, également une expérience donc chez des intégrateurs de services, d'accord, toujours autour des solutions de CRM, de data mining. Et avant cela, j'ai fait l'école de vente de Bernard Tapie à Marseille. Effectivement, on apprend un certain nombre de choses et de relations entre les vendeurs et les acheteurs. Et c'était donc une école qui, à l'époque, en fait, permettait en 3-4 mois d'être opérationnel, on va dire, dans la partie commerciale. Alors, ce qui est le déclencheur, c'est peut-être mon expérience de professionnel avant, puisque j'étais mécanicien automobile. Donc j'ai passé CAP, BEP, technicien, etc. Je me suis retrouvé dans différents garages, à différents postes, en termes de chef d'atelier, puis dans une écurie de rallye. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais pas assez passionné, on va dire, par le métier d'automobile pour pouvoir en faire toute ma carrière. Et les gens autour de moi me disaient, ouais, mais Jean-Marc, il faudrait que tu fasses autre chose, la banque, le marketing, on verra bien ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on m'en a parlé. Et puis, j'ai dit pourquoi pas. Et puis, j'ai tenté ma chance. Et puis, j'ai été pris, sélectionné. Et j'ai fait cette école. Voilà. Et après, donc, j'ai commencé mon activité professionnelle dans la vente, on va dire, en porte-à-porte sur la Côte d'Azur, où je vendais, en fait, à la fois. J'ai vendu des alarmes et des piscines. Voilà. Et c'est à travers, cette expérience, ces deux premières expériences commerciales terrain, puisque à l'époque, j'étais sur la Côte d'Azur, j'avais des copains à moi qui avaient fait des études dans l'informatique ou qui avaient, j'aurais dit, mais tiens, ce serait bien de mettre ou de trouver peut-être un support, puisque à l'époque, les ordinateurs commençaient à arriver, de transformer, je dirais, cette compréhension de la vente, aussi bien sur les écoles tapis, plus que ce que moi j'imaginais à travers mon expérience que je commençais à faire, dans des premiers logiciels. Je suis arrivé dans le monde du CRM en matchant les deux, en matchant, je dirais, l'idée de ce que pouvaient être des outils et de gestion de relations clients à travers le cahier des charges, la réflexion que j'ai eue, et en confrontant ça avec donc la réalité du terrain. Donc en fait, ce qui m'a permis, et moi je suis toujours passionné par ça, passionné par la vente, par les techniques de vente, mais aussi tous les aspects techniques d'aide, d'outils pour aider la vente, le marketing, l'éducation générale, à travers les outils. Donc c'est pour ça qu'après je suis rentré dans une société, donc j'ai commercialisé suite à ça un premier produit ou un outil qui s'appelait Trader sur la Côte d'Azur. Et après donc le patron, la société qui était à Marne-Vallée, m'a dit bon tiens Jean-Marc, le business il est à Paris, monte à Paris, et voilà, et c'est comme ça que c'est fait. En fait ça s'est fait assez simplement. Premièrement je voulais c'est lors d'un déjeuner avec quelqu'un de ma famille qui m'a dit tiens, ce serait bien en parlant de nos enfants, de l'évolution du métier, etc., de dire tiens, il faudrait qu'on puisse quelque part laisser une trace pour nos enfants, pour nos histoires, etc. Et en plus, certains pensent que j'ai un parcours un peu particulier. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et j'ai donc c'est pas un livre, c'est un livre autobiographique. Et j'ai pas voulu prendre un angle trop technique. Donc en fait, c'est en trois parties et c'est plutôt centré sur des anecdotes commerciales pour expliquer dans ces anecdotes ce qu'on retrouve maintenant et ce que j'ai voulu développer, cette fameuse connaissance du cycle achat client. Donc en fait, c'est un livre qui est aussi atypique. C'est pas un livre traditionnel qu'on retrouve que les gens font sur des tableaux, des machins, etc. J'explique le pourquoi à travers l'école dans le tapis. Et après, donc, j'ai pris des anecdotes de commerciales dans lesquelles, en fait, les gens peuvent retrouver certains éléments du cycle d'achat client. Et aussi, je parle aussi du cycle d'achat client. Alors, ma première conviction, et c'est lié aussi peut-être à mon expérience commerciale et aussi, je vais dire, des CRM, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les solutions de CRM, quelles qu'elles soient pour l'instant, il n'y a rien qui aide le vendeur dans la gestion de son opportunité commerciale à gagner un deal. C'est-à-dire qu'il y a des étapes commerciales, il y a des pourcentages de chance, et après, il doit se débrouiller à l'intérieur de ça pour savoir, en fait, quelles actions il peut faire ou pas pour pouvoir obtenir la confiance d'un client et gagner un deal. Mais il n'y a pas de recette magique. Donc, en fait, il y a des process. Dans les meilleurs cas, on paramètre des process de vente, mais qui sont liés aux techniques de vente et non pas faites pour le vendeur et non pas en corrélation avec ce qui se passe du côté de l'acheteur pour pouvoir obtenir sa confiance. Donc, il y a deux choses. Il y a d'un côté l'outil de CRM, d'accord, et après, tu as la réflexion commerciale de l'utilisateur. Mais dans le suite CRM, en fait, voilà, on va, par exemple, savoir comment qualifier un lead, une opportunité, ce que c'est, à quel moment il va falloir rappeler pour pouvoir, en fait, savoir qu'il faut maintenant parler du budget, plutôt du risque, plutôt de la solution à travers, effectivement, ce qu'on a compris ou ce qu'on a analysé dans le CRM à travers les données qu'on peut récupérer sur un prospect, par exemple, ou un client, ben ça, on l'explique pas.
D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est que l'outil de CRM, il est vraiment, techniquement, il déroule le processus de vente, on va dire, pour les vendeurs, mais en vérité…
Dans les meilleurs des cas. Dans les meilleurs des cas. À travers des process liés aux formations commerciales.
D'accord, d'accord.
Donc, dans les meilleurs des cas, des fois, il n'y a rien. Donc, des fois, c'est au commercial de tout simplement…
Ce que j'entends à travers ce que tu me dis, c'est que, aussi étonnant, j'allais dire, que ça puisse paraître, mais du coup, moi, je vais te dire aussi mon expérience et je vais le confirmer, en fin de compte, les commerciaux, ils ont souvent une méconnaissance de la manière dont les acheteurs fonctionnent et dont les acheteurs raisonnent. Et pour autant, c'est avec eux qu'ils essayent de faire des deals et du business. C'est ça, hein.
En fait, pour moi, il y a deux côtés, deux phénomènes de relationnels, on va dire. Il y a effectivement, ce que je comprends de ce que je viens de dire, c'est les process donc d'achat d'une entreprise. C'est-à-dire que je fais un appel d'offres, à quel moment je lance, je consulte le marché, je fais ma shortlist, etc., etc. Donc ça, c'est tout ce qui est planifié. Ouais. En termes de visibilité sur la mise en place d'un projet pour qu'il puisse se réaliser, et après la mise en place opérationnelle, donc après à l'acheteur de trouver de bons fournisseurs, de savoir qui va challenger, voilà. Donc ça c'est toute la compréhension, je dirais, du process d'achat qui est en réalité l'équivalent d'un process de vente dans les techniques de vente commerciales, dans les étapes de vente, en disant voilà, première phase je qualifie, après je relance, après je vais faire un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, etc. Donc tout ça, on peut associer les deux. Et donc, en dehors de ça, donc moi, ce que j'évoque en termes de fonctionnement du cycle d'achat client, c'est un phénomène, je dirais, naturel et humain qu'il existe toujours pour un acheteur et pour un vendeur lorsqu'une vente se concrétise. C'est-à-dire qu'il y a quatre éléments. Il y a effectivement la prise en compte du besoin, de la solution qu'on amène, du budget, du prix et du risque que prend le client. Et ces quatre éléments, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais en fait, je les ai utilisés et matérialisés dans le logiciel FoxClose pour visualiser effectivement dans les trois phases d'un cycle de vente où et sur quel élément le vendeur doit en fait travailler sur chacun d'eux en fonction de l'intensité que ces éléments représentent pour l'acheteur.
D'accord.
Dans son cycle d'achat à lui.
D'accord.
Donc, à un moment donné, il va falloir du prix, à un moment donné, du besoin, mais les quatre éléments fonctionnent toujours de la même manière. Et si effectivement, le commercial suit dans son plan d'action, je dirais, dans sa réflexion intellectuelle, et dans le logiciel qui utilise le CRM, puisqu'en fait, mon outil, c'est un add-on dans les CRM, il visualise ce qu'il fait, et je te garantis qu'en suivant ça correctement, il va gagner l'affaire.
D'accord.
Donc, il faut, donc la contrainte de cela, ça veut dire qu'il faut que les vendeurs et les managers puissent comprendre ce que c'est.
D'accord.
Et comme, par définition, ben, peut-être que chez les acheteurs, c'est pareil, mais il y a un ego un peu surdimensionné chez les commerciaux, puisqu'on dit qu'il faut être les meilleurs, les plus forts, etc. Ils ont du mal à accepter de ne pas comprendre ce fonctionnement logique du cycle d'achat.
D'accord.
Ils sont persuadés. Voilà. Donc, alors, en fait, il y a aussi…
Ouais. Et alors, je te rejoins complètement. Alors, moi, je suis pas allé aussi loin que toi, puisque toi, tu as été jusqu'à traduire ça en solution technique qui vient en effet fonctionner avec les CRM, hein, si je comprends bien.
Exactement.
Ce là. Par contre, je partage complètement ton analyse, qui est une méconnaissance incroyable entre les acheteurs et les vendeurs. Et quand je dis incroyable, moi, j'ai eu le plaisir d'intervenir pour des très grandes sociétés auprès des équipes de vente et dont ma mission était de venir travailler avec eux sur comment fonctionne et comment résonne un acheteur. Et quand j'écoute ces commerciaux et en connaissant le métier achat et les acheteurs, je me dis il y a un écart incroyable.
Il y a un monde, oui. Mais c'est normal parce que les techniques de vente sont pas faites pour comprendre l'acheteur.
C'est ça.
Les techniques de vente sont centrées sur ce que doit faire le vendeur.
Ouais.
Donc c'est ça le problème, c'est que il n'y a pas de pivot commun entre deux mondes. C'est-à-dire que toutes les techniques de vente, donc bon moi j'ai aussi à travers ça étudié depuis l'après-guerre, je dirais les évolutions des techniques de vente dans le temps, d'accord, puisque maintenant on parle du self-selling, d'autres méthodes, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que les méthodes de vente ont évolué parce que la technologie de la formation a évolué. C'est tout.
Mais,
je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, les techniques de vente.
Mmh.
Encore une fois, les techniques de vente marchent, mais elles sont souvent mal interprétées ou même comprises par les commerciaux dans ce qu'on leur demande de faire ou de réaliser par rapport à ce que je disais tout à l'heure, une méconnaissance du côté de l'acheteur.
Mmh.
Ce qui se passe, c'est que maintenant, les commerciaux, eh ben, ça devient des robots.
Mmh.
On leur dit, faut faire ci, faire ça. Et en plus, il y a le CRM qui est par-dessus ça, plus les tableaux de bord, les reporting, etc. On met une pression monstre sur tout le monde, mais sans comprendre, en fait, ce qui se passe.
Mmh.
Donc, mais ça marche comme ça.
Mmh.
Bon, j'espère. Et moi, je milite pour que ça change et que ça devienne plus humain dans la compréhension réciproque des deux. Mais il faut qu'au milieu, je pense que, comment dire, cette méconnaissance crée un fossé.
Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, du coup, pour travailler sur cet écart de vue, toi concrètement, donc tu as travaillé sous l'angle technologique avec cette solution, est-ce que tu accompagnes des équipes commerciales dans cette meilleure connaissance du cycle d'achat? C'est une partie de ton activité d'aujourd'hui.
Ouais. Oui. Donc en fait, moi, premièrement, donc effectivement, première étape, on va dire, c'est effectivement de comprendre le fonctionnement du cycle d'achat client. Donc, je fais des séminaires, des conférences et je fais des interventions d'une demi-journée, une journée complète auprès des commerciaux pour challenger leur expérience du terrain, de leur métier, de ce qu'ils font avec cette vision-là. D'accord? Et aussi de leur faire comprendre ce qui se passe dans la gestion d'une opportunité commerciale. D'accord? Donc, moi, je suis pas un donneur de leçons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de challenger les expériences des uns et des autres à travers une connaissance et de dire, voilà, ça marche comme ça, oui ou non. D'accord? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la réflexion humaine. C'est la réflexion des commerciaux à comprendre la chose. Je vais jamais dire aux gens, faites ci, faites ça, c'est comment ça marche. Non, ça m'intéresse pas.
Oui.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mode de réflexion qu'ont les commerciaux et les vendeurs et les managers dans ce qu'ils font aujourd'hui, pour savoir ce qui pourrait améliorer à travers le fonctionnement du cycle d'achat client que malheureusement, plus de 95% des vendeurs et des managers ne connaissent pas.
Ouais.
Donc, malgré le fait qu'ils puissent vendre.
Qu'au final, ils vendent quand même.
Voilà. Ouais. Donc, moi, je ne dis pas que ça ne peut pas vendre. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'en connaissant ça, vous pouvez mieux connaître les vos techniques de vente et mieux comprendre l'acheteur. C'est tout. Après, c'est un réflexe. Et là-dedans, il y aura le CRM, il y aura les data, etc.
Ce qu'on dit pour la méconnaissance des vendeurs, des populations d'acheteurs, il y a une grande réciprocité, parce que moi qui travaille pour le coup là majoritairement avec des équipes achats, je m'aperçois qu'en vérité, elles ont aussi une représentation du rôle du vendeur
du vendeur,
fonctionnement, et que et on le sait bien à chaque fois, et on a tous les deux beaucoup d'exemples sur le fait que quand il y a une meilleure connaissance, ben il y a, puisqu'on est quand même là au final pour faire du business. D'un côté on a des
points,
d'un côté on a des solutions. Donc c'est comment on fait ce business de manière profitable et qu'on donne un vrai sens, pas uniquement marketing, à cette terminologie de gagnant-gagnant, quoi, pour le coup. C'est ça
que voilà, mais parce que je pense aussi qu'il y a une mentalité, peut-être qui vient peut-être plus des vendeurs, j'en sais rien, côté acheteur, où pendant des années, on a martelé les commerciaux, vous êtes les meilleurs, vous allez. Excuse-moi, je pourrais te donner une mauvaise expression. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est dans la mauvaise interprétation des techniques de vente, beaucoup de commerciaux font du hard selling. Et ce hard selling devient une arme de défense pour l'acheteur. Et les acheteurs, ils ont eu marre. Donc en fait, de faire arnaquer, de faire croire qu'ils pouvaient être machin, etc. Donc eux aussi ont développé, je dirais, des réflexes d'autoprotection contre les vendeurs. Et effectivement, ça a entretenu, je dirais, la guéguerre, côté acheteur, côté vendeur, moi je vais baisser vos prix, vous ne comprenez pas, donc l'autre il défonce ses marges, etc. Donc au lieu qu'ensemble ils construisent une solution positive pour, parce qu'il faut que tout le monde puisse effectivement gagner de l'argent, faire de la marge, créer de la confiance, on parle de fidélisation des clients, etc. Tout ça, ça s'obtient à travers ça. Voilà, mais je pense que peut-être que ce qui se passe aujourd'hui avec malheureusement la crise sanitaire qu'on a connue, etc., ça a fait un peu réfléchir. J'espère que des modes de réflexion, des mentalités plutôt collaboratives, plutôt que d'être en conflit permanent, d'opposition entre un acheteur et un vendeur, c'est pas vrai. Quelque part, on fait la même chose. On défend chacun des intérêts, c'est sûr, mais pour trouver la meilleure solution.
Est-ce que tu as vu des différences dans ces approches, que ce soit lié à des secteurs d'activité ou à des tailles d'entreprise ou peut-être à des cultures d'entreprise? Est-ce que tu as trouvé dans tout ça des zones où tu dis, tiens, là, il y a quand même un terrain où il semblerait que ce soit plus favorable, ou à l'inverse, on part d'un peu plus loin parce que forcément, on peut peut-être se dire aussi que quand le commerce il est plus dur, c'est peut-être moins évident à faire ces migrations. Est-ce que tu as pu repérer des choses dans les contacts?
Par rapport à ce que je fais, par rapport
oui.
Alors, ce qu'il faut déjà, donc, alors moi, je fais, comme je disais tout à l'heure, des séminaires d'intervention chez les clients, mais j'ai aussi donc mis sur le site FoxClose un test en ligne.
Ouais.
Et donc, il y a eu depuis 2 ans, on est à plus de 1800 testeurs.
Ouais.
Et donc, en fait, ces tests me permettent aussi d'analyser. Quand j'interviens aussi en école de commerce, je demande aux étudiants de faire le test. Et en fait, moi, ça me permet d'étudier effectivement après, donc, en fonction donc des gens aussi qui souhaitent aller plus loin, la typologie des demandeurs, alors en termes d'indication, ce qui est première chose qui est marrant dans l'analyse que j'ai fait, c'est que entre les hommes et les femmes, il y a une différence.
Ah, d'accord.
Les femmes sont meilleures que les hommes dans la compréhension du fonctionnement du cycle d'achat et donc de la réussite au test. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a à proportion équivalente, parce que malheureusement j'ai plus d'hommes que de femmes, mais à proportion équivalente, les femmes sont meilleures que les hommes dans la réussite du test du cycle d'achat client.
D'accord.
Par contre, il y en a plus dans les toutes mauvaises réponses.
D'accord.
Ça veut dire que soit elles sont.
Ah, d'accord.
Il y en a plus.
Ou
il y a un blocage complet.
D'accord.
Et au milieu, il y a les hommes.
D'accord.
Donc ça, c'est la première indication.
Ok, intéressant.
Après, comme je vous le dis sur LinkedIn et que les gens viennent aussi beaucoup de LinkedIn sur les tests. Donc, il est ouvert à tout le monde. Donc, j'ai des consultants en vente qui font, je ne vais pas les nommer ici, mais qui font sur LinkedIn, qui ont fait le test, qui viennent à mes conférences, des acheteurs, des commerciaux, des dirigeants. Les formateurs en technique de vente ne sont pas meilleurs que les commerciaux. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont formateurs en technique de vente qui sont plus performants.
D'accord.
Dans la compréhension
du fonctionnement du cycle d'achat client. C'est terrible, tu es en train de dire que le consultant, quelquefois, il conseille sans être forcément plus performant. En tous les cas,
je constate.
Tu constates sans doute. D'accord, c'est une bonne info.
Voilà.
Ça veut dire que j'imagine qu'il y a une partie importante de ces comportements qui sont aussi induits par la nature même des objectifs qu'on leur donne. C'est-à-dire cette logique d'objectif, du toujours plus, du
Exactement.
chiffre, de la rentabilité, ben quelquefois, ça nous amène vers ça. C'est-à-dire que le commercial, il va aller livrer ce qu'on lui a commandé quelque part au niveau de son management.
Voilà. Donc, il a la pression commerciale sur le chiffre
Oui.
et des fois, malheureusement, il est dans l'obligation de vendre. Il le sait très bien, le mauvais produit ou le mauvais service. Il le sait, mais il va le faire. Et c'est là après que peut-être que l'acheteur s'aperçoit qu'il a été malheureusement, il a fait confiance, mais bon, il fera malheureusement pas deux fois la même confiance. Et qu'après, ça renforce, je dirais, l'image négative des commerciaux auprès des acheteurs. Donc voilà, donc la pression commerciale, elle est forte, elle est puissante. Il se peut que ça rentre effectivement dans le hard selling et effectivement parfois de vendre des produits et services qui ne sont pas totalement en phase avec les attentes de l'acheteur. Donc, mais ça, après, moi, je ne suis pas là pour discuter de la culture de boîte. Donc, si les sociétés le font consciemment ou pas, moi, c'est pas mon problème. Voilà,
C'est
c'est un
juste
constat.
les aider à bien comprendre. Le côté achat, ça a bougé aussi. Hein, c'est-à-dire que forcément, la montée en maturité de l'acheteur, la montée en maturité de ses compétences, fait que souvent, il va aller chercher, en tous les cas pour au moins d'une typologie d'achat, une relation un peu différente. Les acheteurs ont aussi bien compris qu'on va dire, il y avait une logique presque de pouvoir qui s'était un peu inversé quand même, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une, bon, on sait bien que dans cette relation-là, il y a toujours une relation un peu de pouvoir ou de force en présence malgré tout qui joue. Et du coup, un peu, même peut-être par la faute de certains acheteurs qui ont joué la réduction du panel fournisseur à outrance, on se retrouve maintenant avec quelques acteurs, ben, du coup, qui ont inversé un peu la tendance et qui ont pris un peu le pouvoir dans la relation, hein.
Ah oui, parce qu'en fait, à travers ça, malheureusement, les acheteurs, comment dire, n'ont plus le choix. Ils sont obligés de travailler qu'avec les gens
C'est ça.
qui ont restreint, au lieu d'avoir une ouverture un peu plus large. Voilà. Donc en fait, on se retrouve avec un non-choix. Ah non, et c'est dramatique ça. C'est dramatique d'être sur des non-choix. Donc alors, moi, dans ta question, il y a deux questions. Il y a soit mon passé ou soit ce que je fais maintenant. Donc mon passé en tant que commercial. Ouais, j'avais des trucs, qu'on va dire des trucs, mais c'est mes recettes magiques. Non, je rigole, je rigole. En tous les cas, moi je me souviens très bien que, par exemple, j'affichais dans mon bureau à la fin du mois ou du trimestre les deals que j'avais dans mon pipe et en fait je les mettais sur mon bureau et j'ai souligné et j'encadrais ceux que je voulais absolument gagner, mais pas que par rapport au chiffre d'affaires que ça représentait, mais par rapport à d'autres critères et j'avais ça donc tous les jours sous les yeux pour savoir effectivement ce que je devais faire ou pas par rapport à l'évolution de mon pipe en général. Donc ça c'était ma méthode, on va dire, ma méthode de travailler, c'est que j'avais les noms de mes prospects, le chiffre d'affaires représenté, et c'était, je faisais ça sur une grosse feuille A4 au Stabilo Boss, et voilà, c'était tous les mois ou la fin de trimestre, quand on arrivait dans les trucs, je me mettais mes 5, 10, 15 noms, et voilà, donc voilà, parce qu'en fait, lorsqu'on est justement commercial en fonction dans les sociétés dans lesquelles on travaille, en fonction de l'objectif qu'on nous fait du mois du trimestre, sur l'organisation d'un mois ou d'un trimestre, il y a une période pour prospecter, il y a une période pour faire des démonstrations, des présentations, etc. et une période pour faire du closing. Et parce que ça, c'est quand tu regardes des boîtes américaines, tu es aussi objectivé, tu as la pression, ou même française, au mois ou au trimestre. Donc, ça me servait à ça. C'est-à-dire que je faisais ça à la fin pour ne plus prospecter, entre guillemets, parce que c'était plus le moment, ou ne plus essayer de relancer des dossiers qui n'en valaient pas le coup. Donc, en fonction de ça, il fallait que j'avance et que je m'organise donc dans le mois et dans le trimestre d'avant pour arriver à ça. Donc, c'est pour ça que voilà, ce mécanisme-là, c'est simplement de l'organisation. C'est pas juste mettre des noms comme ça. C'est de dire, voilà, c'est que dans ton organisation, pour faire l'objectif commercial du mois, du trimestre, de l'année, il y a des périodes. Il y a des périodes. Et donc, ben, il faut faire ce qu'il faut dans les bonnes périodes, c'est tout, quoi. Parce que si, en fait, t'as pas prospecté, ben, t'auras pas rien à la fin du mois, sur le mur, etc., quoi. Donc, je pense qu'il y a deux typologies, en fait, quoi. J'ai l'impression. Il y a des acheteurs qui sont dans, effectivement, la recherche permanente de la très bonne solution, de la meilleure solution. Et il y a des acheteurs qui sont contre le vendeur, j'ai l'impression. Tu vois, c'est, ben, tu sais comment ça marche dans la grande distribution. Il y a toujours deux acheteurs. Il y a le gentil et le méchant. Et en fait, on pense souvent que le gentil, c'est le gentil et le méchant, c'est le méchant. Et ils inversent les rôles. Donc ça, on connaît cette pratique-là. Donc en fait, le vendeur, il va se dire, ben, tiens, je vais pas discuter avec le méchant. Mais en fait, il veut discuter avec le gentil, mais c'est le gentil qui est méchant. donc il y a, moi, j'ai eu parfois l'impression qu'il y a, comment dire, deux facettes en fonction des boîtes aussi, des entreprises dans lesquelles, de personnages d'acheteurs. Il y a ceux qui font beaucoup usage de leur posture d'acheteur. Ils se cachent, quoi, ils se cachent. Je suis acheteur, donc ils mettent tous les bâtons dans les roues pour pouvoir en fait organiser un parcours du combattant pour le vendeur, pour savoir s'il peut monter jusqu'à lui. Tu vois, j'ai plutôt cette impression-là. C'est plutôt que j'ai l'impression que voilà, il y en a qui sont organisés ou des choses qui sont organisées pour que la mise en relation avec un acheteur soit vraiment un parcours du combattant pour jauger la motivation du vendeur à y arriver, quoi. Plus que le produit qu'il va acheter à la fin. Eh ben, c'est de tomber sur un acheteur comme toi qui va lui expliquer dans une boîte toutes les ficelles. Non, c'est en fait, comment dire, il y a l'expérience dans tous les jours, on est tous acheteurs et vendeurs. Après, effectivement, voilà, c'est moi, je pense que les acheteurs professionnels sont mieux formés que les commerciaux aux techniques de vente. Je pense que les acheteurs professionnels sont mieux formés que les commerciaux aux techniques de vente. Et inversement, les commerciaux, eux, sont pas du tout formés ou très peu formés à la compréhension de l'acheteur. Et dans les grosses boîtes, c'est ça. Les commerciaux ont l'impression, ouais, je suis le même machin, etc. Ah non, attention, tu vas tomber sur des acheteurs, ils connaissent mieux que toi la technique de vente que tu es en train d'utiliser pour essayer de leur vendre un produit. Mais ils ne s'en rendent pas compte, quoi.
Voilà, c'est quoi un peu l'histoire de ce livre et comment tu es passé à l'acte là-dessus?
Alors, c'est assez simple.
Tu l'as pas, voilà.
Attends, non, parce qu'il y a ma fille qui est en train de faire la cuisine.
Ah, ça marche.
Attends, deux secondes.
Vas-y, on coupera.
On est en train de faire un film, on s'enregistre. Donc voilà.
Ouais. Allez, c'est bon. Oui, donc.